J'ai fait la chirurgie des tumeurs cérébrales, mais surtout chirurgie de l'épilepsie. Pendant 50 ans, professeur à l'université, là, puis c'est ce qui me reste. Je suis professeur émérite de neurochirurgie, de l'Est de McGill. C'est mon titre.
Qu'est-ce qui vous reste?
Mais pendant tout ce temps-là, j'ai trouvé le temps de le jeudi soir de me faire remplacer pour aller faire la musique un peu. Puis, j'ai trouvé parmi les médecins, mais en particulier parmi les neurochirurgiens, beaucoup de musiciens. On avait une band, à un moment donné, International Jazz, une Neurosurgical Jazz Band.
Alors on a joué, Neurosurgical Jazz
Band. On a joué à la Nouvelle-Orléans, on a joué à Concert Gabor, à Amsterdam, on a joué au Japon, on a joué partout. Et on n'allait pas là comme musicien, on allait là parce qu'il y avait des congrès de neurochirurgie.
Ouais.
Mais il y avait un pianiste qui venait de Boston, un autre de Japon, un guitariste d'Allemagne, un tromboniste de Suède, et ainsi de suite. Mais tout ce temps-là, j'ai travaillé et puis mon épouse me le reproche des fois. On travaillait beaucoup, faisait de la musique, puis le reste à Saint-Alphonse. On est à Saint-Alphonse.
Bienvenue à De Bois et d'eau. Le balado qui s'inspire des grandes personnes du petit village de Saint-Alphonse-Rodriguez dans la Nodière. Je m'appelle Guillaume Rogaudy et ça fait 2 ans que je vis ici. Dans la dernière année, j'ai rencontré une dizaine d'aînés qui m'ont parlé d'eux à travers l'histoire de leur village. Je suis aussi en quête d'inspiration pour l'écriture de chansons qui les mettront en lumière. On connaît à peu près tous quelqu'un qui a un chalet à Saint-Alphonse. Dans ce balado, je vous invite à voir plus loin que la surface des lacs pour écouter les gens de la place. Pour ce deuxième épisode, je vous convie à un vrai voyage dans le temps. Monsieur André Olivier a des racines profondes au village. Et vous verrez, l'entendre parler, c'est comme si on avait planté une caméra dans le Saint-Alphonse des années 40.
Mon père est né ici. Il était d'une famille de 9 enfants. Mon grand-père, le père de mon père, il était médecin ici à Saint-Alphonse. Il était médecin pendant 30 ans. Puis il était maire pendant 20 ans aussi, sur les 30 ans. Jusqu'à sa mort de 1900 à 1919, il était maire de Saint-Alphonse. Lui, il avait commencé sa carrière à Berthier. Il a gradué en médecine en 1879. Et puis, il a voulu s'installer dans sa place natale à Berthier. Et puis, probablement qu'il n'y avait pas beaucoup de grosse clientèle. Il a décidé de s'en aller à Sainte-Agathe.
Okay.
Et puis, il a pratiqué pendant 15 ans là-bas à Sainte-Agathe. Et puis, alors, il devait être peut-être le premier médecin ou parmi les tout premiers dans le nord, dans ce coin-là.
Bien, ouais.
Et puis, il était installé au bord du lac des Sables à Sainte-Agathe. Et puis, à un moment donné, au bout d'une quinzaine d'années, il y a eu un incendie de sa maison.
Ah oui.
Et puis, il s'est fait... une blessure au bras, puis il allait faire sa convalescence chez sa mère, qui était à Joliette à ce moment-là. Et puis, c'est comme ça qu'il a découvert Saint-Alphonse.
OK.
Et je ne sais pas par quel hasard il est venu, mais il a trouvé ça beau, puis il a décidé qu'il déménageait de Sainte-Agathe à Saint-Alphonse. À ce moment-là, si vous imaginez la vie d'un médecin à Saint-Alphonse-Rodriguez, hein, c'était pas un cadeau, parce qu'il fallait qu'il couvre... Sainte-Béatrice, puis jusqu'à Saint-Côme.
Ah oui.
Et parfois, puis les gens, tu sais, aller faire des visites, puis atteler le cheval, puis la charrette, puis le soir. C'est bon, c'est comme pratiquer la médecine ou la neurochirurgie. Ça se fait dans les années, quand vous êtes dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, c'est tout différent, hein. Et puis, mais des fois, je pense à ça, tu sais, Saint-Alphonse, c'est beau, mais médecin à Saint-Alphonse, là, en 1920, en 1930, puis élever la famille, puis nourrir la famille, puis vous traitez des patients qui eux-mêmes ne sont pas beaucoup en moyens. Hein. Vous payez avec des poules, puis les
ouais.
Le docteur va vous payer, puis c'est ça. Mais pendant ce temps-là, il y avait une famille de 9, puis vous les envoyer au collège. Alors, mon père et mon oncle Louis, qui étaient les plus vieux, ils se sont rendus jusqu'en vérification belle-lettre, et puis ensuite, tu as oublié de faire vivre la famille. Et alors, ils sont mis les deux dans le commerce. Mais mon grand-père a travaillé au Parlement, il travaillait au au Parlement, et puis comme on m'a tout fait là, et puis... Tandis que les oliviers d'ici, c'est intéressant. J'ai toujours dit un petit peu... Je dirais pas... snobish. C'est une famille qui était très bien intégrée, mais mon grand-père était médecin. Mon arrière-grand-père, c'était un écrivain. Il était écrivain, poète, il était sénateur, juge. Puis il a fondé un journal, la Bertie, qui s'appelait L'Écho des campagnes. Il était très ami avec un poète là, qui s'appelait Charles Lévesque, qui était avocat en plus. Son père, à lui, son grand-père de mon arrière-grand-père, était aussi...
Le grand-père de votre arrière-grand-père?
Oui, il fait partie du premier gouvernement du Bas-Canada. Mon arrière-grand-père était député, l'équivalent de Berthier, alors que le Trisaïel, lui était Warwick, c'était Berthier, mais plus encore plus large. Il était très patriote, hein? Il était contre la Confédération, puis il a fait un discours que j'ai encore, les conférences de Québec, contre la Confédération, puis qui disait que... Il était contre, premièrement, parce que la population n'avait pas été consultée, et puis que, deuxièmement, c'était une affaire pour favoriser beaucoup, pécuniairement, beaucoup de monde. Alors, ça lui a fait... ça l'a peiné beaucoup quand il y a eu la Confédération en 1867. Et puis, Femme à voix, ils l'ont nommé sénateur. Puis il est devenu sénateur à Ottawa. Puis là, il s'ennuyait. Puis ensuite, il était nommé à la Cour supérieure pour le district de Joliette. Puis comme ça. Alors, mon grand-père, il a marié une fille de Sainte-Émilie de l'Énergie, qui était une musicienne, mais qui avait étudié le piano, en tout cas, qui touchait l'orgue à Sainte-Émilie, et puis se sont mariés en 1895.
Okay.
Lui est arrivé à Saint-Alphonse vers 1890, puis elle enseignait à l'école, et puis finalement, il était beaucoup plus âgé qu'elle. Il avait certainement une vingtaine d'années plus âgé qu'elle. Mm-hmm. Elle pense qu'elle avait 18 ans, puis lui, il était 38, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et puis, alors, ils se sont mariés ici à l'église de Sainte-Émilie, puis ils sont venus s'installer. Et puis, il a fait sa pratique comme ça. Puis, on a une famille de 9 ou 10 enfants. On a perdu un ou deux. Moi, je suis arrivé dans le portrait ici quand j'avais à peu près... Je suis toujours venu. Hein? Mes parents sont toujours venus. Ils ont fait leur voyage de noces. À ce moment-là, mon père demeurait à Hull.
OK.
Et maintenant, c'était Gatineau, mais il demeurait à Hull. Et puis, il a marié une Irlandaise de Hull. Puis, ils se sont amenés à Saint-Alphonse pour le voyage de noces.
Pour la voyage
de Nice. Oui. Et puis, ils sont retournés à Rome. On est toujours toute la famille. Dans la famille, on est 7. Et puis, 5 garçons, 2 filles. Puis on est toujours pratiquement jusqu'à toute notre enfance. On est toujours venu à Saint-Alphonse l'été. Mm-hmm. Alors, on a habité au lac Vert, on a habité au lac Pierre.
Vous aviez des chalets? À ce moment-là,
oui, on a un chalet. Oui, éventuellement. Moi, je suis arrivé dans les années, pour que je me rappelle, les années 1940, ça a commencé à avoir des constructions de chalets autour du lac Pierre, ça s'est intensifié. Mm-hmm. Il y avait ma tante, Jeanne, qui était au bureau de poste, elle en a fait construire au moins 6-7 chalets qui se ressemblent tous, ils sont encore là, ils ont été bien construits. Et puis, j'avais un oncle qui était le juge de nez qui, lui, l'a fait construire dans l'île. Il y a l'île Louise, là, dans le milieu du lac Pierre.
Ah oui?
Alors, il l'a acheté du gouvernement directement pour 1 $.
Comment ça?
J'ai le contrat en bonne et due forme. C'est pas une location. Il était propriétaire de l'île. Puis, par après, il l'a donné à sa sœur Louise. C'est pour ça que l'île du lac Pierre s'appelle l'île Louise. Il y a eu ce... construction de chalet au lac Pierre. Alors, j'ai eu connaissance, je me rappelle encore d'être au voisinage des chantiers, là, puis voir le chaland qui partait vers l'île là, avec matériel pour construire l'île. Un des personnages très importants de Saint-Alphonse, c'était mon oncle Louis Olivier, okay. Qui était le fils aîné. Mon père était le deuxième, et puis... Lui, dans les années 40, il est devenu un entrepreneur à Saint-Alphonse, et puis il a connaissez le lac Pierre, vous connaissez bien là,
oui, quand même.
La route qui va vers Sainte-Béatrice, il y a une, ouais. Y a une baie là. Alors, le moulin ici était là, puis il était activé par un gros moteur diesel. Et puis, tous les seuls emplois qu'il y avait à Saint-Alphonse dans ce temps-là, c'était au moulin ici. Alors, lui employait une douzaine d'hommes là, qui allaient travailler au moulin ici. Puis, l'hiver, il y avait des snowmobiles, il y avait plusieurs gros snowmobiles, les premiers probablement qui sont sortis en province. Et avec ça, bien, il coupait le bois de Saint-Alphonse jusqu'à Jersey, puis il amenait le bois ici pour le couper l'été. Puis là, l'été, il versait dans la baie du lac avec une grande chaîne qui resserrait pour les rapprocher de ce qu'on appelait le monde bio. Et puis là, les bio montaient, puis ils étaient sciés, puis ils étaient mis en pile. Puis il y avait les camions, puis les camions partaient le matin pour aller livrer la planche, le bois à Montréal. Alors, il y avait relativement beaucoup d'activités, et l'hiver et l'été, centrées sur le commerce du bois. Puis avec, en plus de ça, Louis-Olivier, là, dont je parle, exploitait une petite compagnie de transport entre Joliette et Saint-Côme. Alors, l'été, la plupart du temps, c'était un autobus. Les premiers autobus de M. Prévost, les compagnies de Prévost là, qui font des autobus, ils achetaient ça. Il y avait quelques autobus qui faisaient le transport entre Joliette et Saint-Côme. Ça faisait beaucoup partie de la vie de Saint-Alphonse parce que c'est comme ça qu'arrivait le courrier par l'autobus. Et puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas le 343, ça n'existe pas. Il fallait passer nécessairement par le village, et puis tous les midis, l'autobus s'arrêtait devant l'église, et puis à ce moment-là, il y avait toujours deux ou trois taxis, c'était populaire le taxi, qui prenait les voyageurs, puis les amenaient au lac Pierre, au lac Vert, au lac Rouge. C'est comme ça que ça fonctionnait pas mal.
Ah, fait qu'il n'y avait pas la grande route là, pour l'accès rapide.
Oui, ça c'est la grande. Ben, il y avait un chemin. Mais la 343 n'existait pas. Mais ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement a décidé de faire passer la route en arrière de Saint-Alphonse, qui était une bénédiction, parce qu'on gardait intact, pratiquement intact, le vieux village, et puis ce qui donne son charme, parce que contrairement à des villages comme, Saint-Ambroise, Sainte-Marcelaine, la grande route passe en plein milieu du village. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis l'hiver, ben c'était les snowmobiles, puis c'était impossible à partir de Sainte-Marceline, quand il y a des tempêtes de neige, l'autobus ne peut pas monter. Alors les gens débarquaient de l'autobus, embarquaient dans des snowmobiles. L'oncle Louis, celui que je parle, c'est un type pas mal extraordinaire. Son épouse, Marie-Louise, c'était une musicienne, chantait, elle jouait du piano. Et puis, ils ont eu un seul enfant qui était une fille. Et lui, c'était un homme d'affaires, je suppose, qu'au début, il devait dire ça aurait été peut-être mieux avoir un garçon qu'une fille. Pas sûr, parce qu'il aimait beaucoup sa fille comme ça. Puis, lui-même aimait beaucoup la musique. Alors, il en a fait une musicienne. Ça, en soi, c'est une histoire extrêmement intéressante parce que Lise, la fille de Louis, l'a envoyée au Collège Saint-Anne à Saint-Ambroise, à l'école Saint-Anne, je crois, à Saint-Ambroise, puis il y avait le bon professeur de piano. Alors, elle a étudié le piano, et puis ils ont été impressionnés par la façon dont elle apprenait le piano, puis elle jouait, puis ils l'ont envoyée au couvent de la Chine, Saint-Anne de la Chine, où il y a encore de meilleurs professeurs de piano. Elle a étudié avec Charles Reiner, il l'a dénommé le Tondal. Et puis, finalement, elle a enregistré avec Wilfrid Pelletier. Pelletier, alors qu'elle avait 20 ans, les fantaisies hongroises de Liszt, dont j'ai une copie de l'enregistrement. Mais pas pire pour une petite fille de Saint-Alphonse.
Ouais, c'était
bien.
Wow.
Puis elle a continué à jouer comme ça. Elle est décédée il y a 2 mois. Alors, elle avait 93, 94. Elle a composé toutes les fois qu'elle naissait un petit grand-enfant ou grand-enfant, elle composait une pièce. Puis on fait jouer cette musique-là à sa cérémonie il y a un mois, à peu près, environ.
Oui.
Ouais. Puis l'oncle Louis, de Saint-Alphonse, et lui, c'est un amateur d'opéra. Puis en particulier de Erna Sack, qui avait une grande cantatrice allemande dans ces années-là, là, qui avait fui l'Allemagne, et puis qui tenait des concerts à New York, puis à Montréal. Il envoyait des fleurs, puis des bouquets de fleurs. Okay. Et puis, évidemment, dans ce temps-là, il n'y avait pas de bon système d'enregistrement, mais il y avait beaucoup de musique. C'était intéressant parce que dans la maison de ma grand-mère, qui était une pianiste, il y avait un piano à queue, un beau piano à queue. Puis dans la maison voisine, qui était la maison de Louis et de sa fille, il avait acheté un piano, un autre beau grand piano comme un truc qu'il a gardé toute sa vie. Puis Louis est décédé en 51, en janvier 1951. Puis là, je pense que ça a fait un tournant dans la vie, comment on dit, la vie, le travail à Saint-Alphonse. Parce que quand il est décédé, ça n'a pas duré beaucoup. Le moulin ici a fonctionné encore pendant un an ou deux. Et puis le commerce du bois s'est arrêté. Et les autobus ont continué pendant quelques années encore, mais ça s'est éteint. Parce qu'il était décédé un peu. Lui était décédé dans le bois. C'est dans le bois. Il surveillait la coupe et le transport de bois à partir du lac Stevens, c'est un autre lac de Saint-Alphonse.
En plein travail, là.
En plein travail, oui, en plein travail. Un autre garçon qui était impliqué dans la Bible de Saint-Alphonse, c'était mon oncle Jacques, qui la bibliothèque Jacques-Olivier, là.
Oui.
C'est lui qui a fondé ça vers 1973, je pense. Et puis, il était un peu préoccupé, là. Préoccupé dans le bon sens pour donner l'accès à la lecture aux enfants. Et puis, quand il a pris sa retraite, il a pratiqué la chirurgie dentaire à Montréal pendant 30 ans. Et puis, quand il a pris sa retraite dans les années 70, il est venu à Saint-Alphonse. Puis, il était lui aussi maire de Saint-Alphonse pendant 8 ans, je crois. Là-bas. Et puis, je pense que c'était juste avant Marcel Godette, mais je suis pas sûr. Mais ça s'entendait bien avec Marcel Godette et puis ces familles-là.
C'était pas de la compétition. Là.
Je suis venu vivre ici à Saint-Alphonse en ma quatrième année. La deuxième partie de ma quatrième année, je devais avoir 1948 comme ça. Et là, c'était j'avais à peu près 10 ans, ouais. J'avais une dizaine d'années et puis... J'étais allé au couvent ici à Saint-Alphonse. Alors, le couvent à Saint-Alphonse, qui était un autre point central de la ville de Saint-Alphonse, est situé juste au fond du parking actuel de l'église, hein, le chemin du clocher. Là.
Ouais.
C'était
là, il n'y a plus de trace de ça.
Il n'y a plus aucune trace de ça. C'est là qu'était le couvent. Moi, j'allais là, puis on avait une institutrice qui s'appelait Sœur Joseph de Nazareth, qui était un petit peu baquaise, et puis, mais qui était dans des coups de baguette, ses doigts étaient mal commodes, et puis. Alors, on était sept dans la classe. Moi, j'arrivais septième sur sept, et puis, je faisais la honte de la famille, parce qu'il y avait ma tante Jeanne qui était institutrice. Il fallait qu'elle m'a relevé un petit peu, et puis, elle m'a aidé. Et puis, finalement, je suis allé par après au collège à Rawdon. J'ai fait mon collège à Rawdon, ma cinquième, ma septième année, et puis ensuite, je suis allé au séminaire de Joliette. Et alors, ça, c'est pas mal ma grand-mère qui le voyait tout ça, hein, qui s'intéressait beaucoup à ce que c'est sa famille et sa progéniture s'instruisent. Oui,
c'est important alors, pour elle.
Alors, dans ces années-là, j'ai passé 6 mois complets ici. Puis comme ça, j'ai commencé à connaître à peu près tout le monde. Le magasin général, oui, il y avait un magasin général qui est la maison Gariepi maintenant, juste en face de l'église, là. C'est quand vous prenez une bifurcation pour le lac Pierre pour monter le village, une belle grosse maison blanche avec la toiture verte. Ça, c'était le magasin général. Autrefois, il y avait une galerie qui entourait. Et puis, c'était pas mal un centre d'activité. Pour les gens qui votaient libéraux, je pense qu'ils allaient là. Tandis que les bleus, c'était en haut de la rue ici. Là, il y a une rue maintenant qui s'appelle la rue Fleury. Alors, il y avait M. Gaston Fleury qui était là. Mais je pense que les autres étaient bleus. Et puis, en fait, il y a une histoire un peu cocasse que peut-être vous savez que la rue Fleury s'appelle la rue Fleury parce que M. Fleury était préoccupé avec la venue de la route 343 qui aurait pu beaucoup d'influence à son magasin. Alors, Antonio Barrette, qui était le ministre du Travail, je sais pas, s'est arrangé pour qu'il y ait une route qui monte jusqu'à son commerce en haut de la côte. Alors,
ah ouais. Il était bien placé.
Il était bien placé. Moi, petit bonhomme, je me promenais un petit peu partout. Là. Il y avait le boucher, la tendresse. Il y a une maison maintenant, en face du parking pour les enfants. Là. Il y a une maison de maison qui était rénovée pour les pensionnaires, je crois. Ça, c'était le site de la boucherie de la tendresse. Et puis,
okay. Ça fait longtemps, ça.
Bon, ouais, très, très longtemps. Et puis, il faisait, à un moment donné, la caisse populaire. Et puis, mais il était bouché. Un de deux ou trois bouchers qu'il y avait à Saint-Alphonse. Mais ce qui avait d'intéressant à ce moment-là, c'est qu'il faisait la viande sur place. Lui, il avait une petite camionnette rouge, il ramassait les cochons un peu partout. Puis là, il les assommait avec une masse. Et puis, les pauvres cochons, ils ne décédaient pas du premier coup. Alors, il y avait des hurlements dans le village.
Ouais, c'était fréquent.
Ben, la fréquence, je ne me rappelle pas de la fréquence, mais ça m'a frappé jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle encore les sons que ça.
La journée,
ça faisait. Alors, ça, c'est Jean-Marie Le Tendresse. Il y avait un autre au bout, en bas du village, là, où il y a la moto maintenant. Pas des poulaillers, mais des colombiers aussi. En tout cas, c'était plein de pigeons. Parce que la ville de Saint-Alphonse était beaucoup reliée aux pigeons. Il y avait des pigeons partout. Il y avait beaucoup plus de granges à l'extrémité des terrains ici. Et puis, les pigeons se tenaient là. Puis, ils surveillaient les poules. Les gens avaient des poules aussi.
Ouais.
Et puis, ils allaient voler le grain des poules. Grain. Alors, c'est un souvenir, ça. Les pigeons de Saint-Alphonse, il y en avait beaucoup. Moi-même, j'en prenais. Il y avait une boîte avec une corde. Et puis, quand ils s'approchaient trop près de... Les graines, je tirais ça à la corde. J'avais des amis, ça faisait des amis, ça faisait des amis à l'école, et puis l'été, là, j'avais des amis au Lac-Rouge, et puis la famille Perrault, il y avait la famille d'Armand Perrault, il y avait plusieurs garçons, un qui s'appelait Martial, je crois qu'il est devenu électricien. Puis le village, la municipalité avait fondé dans une ancienne, probablement c'était une ancienne étable, un centre de cinéma, ça c'est en arrière du presbytère maintenant, où ils ont bâti présentement un centre pour les enfants qui sont en train de construire.
Oui, un CPE, une galerie.
Oui, bien, à cet endroit-là, il y avait un assez grand bâtiment fait sur le long qui passait des films.
C'était un cinéma.
C'était dédié au cinéma, mais c'était pas au cinéma. Non. Mais l'hiver aussi, il y avait la tante Jeanne je pense qu'elle était l'organisatrice principale des festivals de Saint-Alphonse. Puis pendant plusieurs années, il y a eu des festivals.
Au quatrième épisode, Mme Rita Godet va nous en parler beaucoup plus en détail.
Les activités se terminaient avec de la musique dans ce bâtiment-là. Puis dans le temps, il y avait des personnages très hauts en couleur. Là. Pour moi, celui qui était le plus coloré,
ouais. C'était
Damien Desroches qui vivait dans le quatrième rang. Moi, ça m'a toujours frappé parce que mon oncle Louis avait des terres dans ce coin-là. Et puis, on allait visiter Damien Desroches. Il y avait deux garçons, un qui était Louis et Jérémy. Jérémy, ça jouait du violon. Et puis, des fois, on allait là le soir. Mais la maison... Et il n'y avait pas de séparation entre la cuisine et l'étable. On était à la table.
La cuisine et l'étable.
Il manquait un mur là, volontairement, et puis on voyait un ou deux chevaux qui étaient là. Mais lui, Damien Desroches, il était célèbre parce qu'il avait un grand chapeau de paille, une grande moustache, puis il jurait comme un bon. Et puis, puis ce qui fait rappeler le village, une des grosses activités du village Saint-Alphonse, c'est quand Damien Desroches arrivait du rang 4, puis il s'en venait au magasin général. Alors, il allait chez... Pas chez Gariépi, lui. Il allait chez Fleury, en haut.
Ça, c'était les rouges ou les bleus, M. Fleury?
C'était des bleus, ça.
OK.
C'était des bleus parce qu'il était sympathique à M. Barrette, qui était le ministre du Travail à ce moment-là, dans le cabinet du blessé, puis il emmenait l'âge. Il venait en charrette, et puis il y avait trois hommes. Il s'assoyait en avant, puis l'épouse, je pense, elle s'assoyait sur un banc en arrière, dans la charrette, et puis c'était un cortège comme ça.
Okay. Mais c'est que c'était des personnages, il y avait comme...
C'était que coloré. Oui. Par exemple, lui, ce qu'on dit, c'est parce que, par exemple, à la messe de minuit, une fois, les soirs dit que c'était présenté à la messe de minuit, puis le curé Perrault lui avait refusé la communion. Et puis il avait dit des gros mots quand l'autre l'avait sauté. Quand il venait là comme ça à la messe, il passait chez l'oncle Louis. Et puis Lui, l'oncle Louis, dans les messes de minuit, c'est lui qui chantait le minuit chrétien. Puis, il y avait toujours de gros réveillons. Hein. Notre famille, nous, on venait d'Aol, et puis j'avais une autre, les Roussins, ici, de Saint-Alphonse. C'était Hortense Surtin, était la fille de mon père, Alphonse Olivier. Et eux autres venaient de Joliette. Nous, on venait de Hall. Il y avait le docteur Cloutier de Saint-Tous, ça venait sa famille. C'était des grosses familles. Puis on venait toujours pour le réveillon à Saint-Alphonse. Et puis je me rappelle que c'était pas toujours passable. Hein? Alors, on nous prenait en snowmobile à Sainte-Marceline, là, dans le bas de la côte, là. Probablement chez Grégoire, dans ce coin-là, probablement que c'est là que les snowmobiles venaient. C'est ça, la vie était comme ça. Il y avait, comme je dis, une des caractéristiques, il y avait beaucoup de musique. Ma grand-mère jouait, je m'étais inscrit, elle m'a fait inscrire un concours pour aller chanter l'Ave Maria de Schubert. Un concours d'amateur à Joliette. J'avais gagné le concours à Joliette.
Ah, oui.
C'est l'histoire vraie. J'avais un cadre comme prix. Mais elle avait pour moto, là, pour la musique. Il fallait chanter avant de jouer. Alors, j'ai pas touché au piano beaucoup. Ah. Elle me donnait tous des cours de chant. Elle m'a drillé jusqu'au concours, mais gagné le concours. La pêche, pour moi, c'était important. J'allais, dans ce temps-là aussi, j'allais au Lac-Pierre. Il y avait la maison à Lourdes, il y avait un grand quai, puis il y allait à la pêche là. On pognait beaucoup de barbotte, puis de la truite aussi, puis de la barbotte. Les deux, à ce moment-là, cohabitaient parce qu'on prenait. Et puis moi, je les collectionnais. Je prenais les barbottes, tous les poissons que je prenais après l'école, je les pêchais. Et puis je mettais ça dans un grand baril. J'allais les nourrir, et puis... C'est pour ça que ça n'a pas mis un bon en classe.
Il y a d'autres intérêts, finalement.
Oui, d'intérêts, probablement. Je n'avais peut-être pas 12, je n'avais peut-être 6, tendance à exagérer avec le temps. Mais c'est comme ça que ça se passait. Et ici, voyez-vous, ici, là où vous voyez la maison, ici, c'était des champs. Et puis, il y avait une dame, Amy Kelly, qui était probablement une Irlandaise, qui aimerait dans le bas du village. Là. Tous les matins, elle avait des jupes, elle avait fait avec des poches de jute, puis elle montait avec ses chaudières. En tout cas, elle montait ou elle descendait avec ses chaudières le soir, avec plein de fruits, là, des mûres, des fraises. Alors, c'est un autre personnage que je vois qui descendait avec ses chaudières. Mais elle passait la journée avec les vaches ici dans le champ. Vous savez où est-ce que aujourd'hui l'avenue de la plage, quand vous descendez la maison de la culture, l'avenue de la plage, ça n'existait pas à ce moment-là. Il y avait une boutique de menuisier, puis de... l'artisan qui était tenu par un monsieur Arthur Arbour. Puis lui aussi était intéressant. Il avait une casquette, une grosse moustache. Il faisait des chaloupes tout l'hiver.
Il
construisait les chaloupes de ses mains dans la boutique là. Et il pliait les planches, puis il chauffait avec la ripe, là, puis les retailles de chaloupes, puis de bois qui était là. Il y avait M. Albert Godette, Albert Godette, qui était le père de l'ancien maire Marcel Godette, qui demeurait en haut du village. Vous avez la maison de Forge, là, c'est ma boutique de Forge. Mm-hmm. Albert Godette demeurait, il était maire très longtemps aussi, Saint-Alphonse. Il demeurait en face de la boutique de Forge. C'était le Forgeron. Puis ça, c'est un autre lieu très, très actif de la vie communautaire à Saint-Alphonse. Été comme hiver, là. L'hiver, les portes étaient fermées, mais l'été, les deux grandes portes étaient ouvertes, puis les chevaux entraient là. Et puis mon père, la première place qu'il allait quand il arrivait à Saint-Alphonse, après avoir vu sa mère, c'est de monter voir Albert Godette. Puis là, il nous amenait, puis on s'installait. Puis il y avait sa grosse enclume, là, puis son chalumeau, puis l'âtre, puis c'était très actif. Hein?
Mais c'était quoi vos passions quand vous étiez, mettons, adolescent?
Bien,
quand on grandit un peu.
À ce moment-là, déjà, j'étais beaucoup intéressé par ça, parce que je me compte ces affaires-là, les poissons, puis les animaux, ça m'intéressait beaucoup. Et puis, mais ce qui m'a frappé le plus, c'était en deuxième année, dans syntaxe, ce qu'on appelait méthode syntaxe, la situation Bellevette. C'était la musique, il y avait le père Brunel qui était le directeur de la musique. Puis le collège de Joliette, le séminaire de Joliette, qui était très, très bien organisé de ce point de vue-là. On avait un orchestre symphonique, on avait une harmonie. Alors, il m'avait donné un cornet. Alors, je commençais à apprendre le cornet et la trompette quand j'avais 12 ans, puis j'ai jamais arrêté. J'en fais 2 heures par jour encore aujourd'hui.
C'est encore votre instrument principal?
Oui, ouais, j'ai jamais arrêté.
La trompette.
Je commence déjà à penser à ma chanson.
C'est quoi qui vous accrochait à la trompette? C'est-tu plus les airs comme plus comme de fanfare, de big band et tout? Ou vous êtes-vous allé vers le jazz à un moment donné?
Qu'est-ce que vous aimez? Ça a toujours été le jazz. J'ai été formé un petit peu de la musique, là, de la grand-mère, là, c'était à Saint-Alphonse. Les autres, c'était Schubert et puis... ma grand-mère, c'était Schubert, puis je pense que ma cousine aussi. Mais quand on est arrivé au collège, la trompette, c'était, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le son, la trompette. C'est ça, je pense, ma tirette, les pistons, je sais pas. Mais ça a commencé comme ça. Puis ensuite, il y avait les airs, la musique qui était très populaire. Dans ce temps-là, il y avait Cherry Pink and Apple Blossom White, Cerisier, Rose et Pommier Blanc, qui était... un succès là, de chef d'orchestre, là, Xavier Coubert, et puis c'est comme ça d'une chose à l'autre. Mais ça a toujours été le jazz, ma passion c'était la musique de jazz. Puis alors là, quand j'avais 14-15 ans, ben, j'ai découvert les grands trompettistes de jazz, là, et puis ça y est.
Les grands maîtres.
Les grands maîtres, là. J'avais 15 ans, puis j'écoutais Dizzy Gillespie, c'était mon...
Oui.
Mais vers les années 57, j'ai découvert trompettiste avec Clifford Brown. Et lui, c'était le plus grand, puis jusqu'à aujourd'hui, il est mort très, très jeune. Et puis, alors, j'ai toujours resté connecté. J'ai toujours joué à Montréal. Quand je demeurais à Montréal, ben, j'ai joué pendant 40 ans dans un big band de jazz. Puis j'ai encore joué, je jouais le mardi soir.
Vous avez un groupe?
Oui, oui, oui. Un groupe régulier? 17 dans le big band. Et puis, évidemment, il s'est renouvelé au cours des années. Puis là, je pense que je suis rendu plus vieux. Là, t'avais de débarquer. Et puis, je peux un peu dire des très, très bons musiciens. Je dis pas ça pour moi. Moi, je trouve plus... Quand on joue de la trompette, l'instrument de musique, ce qu'on apprend, c'est qu'on apprend en particulier la trompette. Là. On apprend où est-ce qu'on appartient. Hein? Il y en a toujours un meilleur qui arrive. Et puis... c'est une philosophie de vie, de prendre son trou, puis de lâcher prise. Et puis, ce sera jamais toi qui va monter le plus haut. Ce sera jamais toi qui va jouer le plus vite. Ce sera jamais toi qui... Mais s'il s'agit de trouver une niche, là, j'essaie de transmettre ça. Là. J'ai une petite fille qui a 11 ans maintenant. Puis les 10 premières années, on était pas mal voisins avec sa mère. J'ai essayé de lui inculquer. Là. Je lui ai dit, là, maintenant, t'as 10 ans, là, l'année passée, tu débrouilles en musique, tu prends tes décisions, tu veux jouer, tu joues, si tu veux continuer. Fait apprendre le piano, mais surtout l'harmonie.
Mm-hmm. Plus le côté théorique.
Oui, le côté théorique. Et puis, moi, ma devise, ça a toujours été ça, la théoria cum praxi, la théorie avec la pratique. Vous, elle avait accumulé les connaissances théoriques, il faut les mettre en pratique. Alors, la musique, on peut pousser les deux comme ça, et puis... Ça lui donne beaucoup de chance dans la vie. Je trouve que ça lui donne des bons amis, puis une structure... moi, en médecine, j'ai des bons amis en médecine. Mes meilleurs amis, c'est parmi les musiciens. Il n'y a aucun doute. Hier, par exemple, j'ai gardé des amis. Ils parlaient de guitare. Moi, quand, il y a contrebassiste, c'est Michel Donato. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça, oui. Il a eu l'Ordre du Canada comme contrebassiste. Il m'a appelé hier, j'ai mis un message, appelle-moi André, il dit que tu as des nouvelles. Hier, je le rappelle, il dit, c'est pour annoncer la mort de Guido Basso. Guido Basso, c'est un trompettiste maintenant de Toronto, mais qui est né à Montréal et qui est devenu un des tops au monde sur le flugelhorn. Avec Michel Donato, il m'a demandé... On a joué pendant 20 ans. J'ai joué 20 ans avec lui tous les lundis soirs. On avait un combo de bebop, de musique de bebop, parce qu'on avait de jazz, mais c'était surtout de musique de bebop. En tout cas, notre combo a joué pendant au moins 22-23 ans. On était 6. Et lui, Donato me disait, yeah, mais là, je joue un petit peu moins. Mais j'écoute beaucoup. J'en écoute beaucoup. J'ai des affaires à te faire écouter. J'en écoute beaucoup. Quand on est à la retraite, c'est un bon passement, un passe-temps intéressant.
Et c'est un très beau lapsus. Est-ce que ça pourrait s'intégrer dans une chanson?
Finalement, il fallait se brancher. Là. Je suis allé en médecine. Je suis allé en médecine à l'Université de Montréal.
OK.
Ensuite, j'ai fait un PhD en neuroanatomie. J'ai commencé à Montréal, j'ai terminé à l'Université Laval. Puis ensuite, j'ai fait l'entraînement en neurochirurgie à McGill, l'Université de McGill. Puis j'ai été associé avec l'Institut neurologique de Montréal. Et puis j'ai fait la chirurgie des tumeurs cérébrales, mais surtout la chirurgie de l'épilepsie. Pendant 50 ans, professeur à l'université, là, puis c'est ce qui me reste. Je suis professeur émérite de neurochirurgie à l'Université de McGill. C'est mon titre.
Qu'est-ce qui vous reste?
Incidemment, moi, j'ai pratiqué jusqu'à 79 ans, j'ai pratiqué 50 ans.
Jusqu'à 79
ans? Oui, 79 ans. Et puis, c'est très correct, mais là, je pense que ça va encore.
C'est pour rien.
Non, j'ai fait des blagues, mais j'ai pris ma retraite ici. C'est la seule chose qui me manque, c'est des petits groupes comme ça de musiciens pour jouer ce genre de musique-là. Lui, il m'appelle hier, m'a parlé de Guido Basso, Michel Donato m'appelle, et puis me dire là, qu'il y a des choses à me faire écouter, puis qu'il est prêt à venir ici à Saint-Alphonse pour venir jouer.
Ah oui?
J'étais très ami avec la mère, Marcel Godette, et qui est décédé maintenant. Je ne l'ai pas connu, lui, hein, Marcel
Godette.
Non, Marcel Godette. J'étais encore ami beaucoup avec Albert Perrault. Puis ça, c'est une personne ressource, si vous voulez avoir...
On parlait de lui hier.
Oui. Et son épouse aussi. Elle vit, puis elle a beaucoup de mémoire. Et puis elle a déjà été marguillère. Puis...
Merci pour le tuyau, Monsieur Olivier. Pour rencontrer Albert Perrault et sa femme, Hélène Lafont, allez au premier épisode.
Alors, Jeanne, est-ce que vous êtes de Montréal? Vous êtes de Montréal?
Rogaudy.
Oui, c'était un... Ouais. Au collège à Joliette, je crois que plus âgé que moi, il y avait un Rogaudy.
Moi, bien, à Joliette, il y avait mon... Il y a mon grand-père, Bernard.
Bernard Rogaudy. Oui.
Le pédiatre.
Oui. Ben Bernard Rogaudy, quel âge qu'il y aurait?
Bien là, il y a 89. Il y a eu 89 le 1er janvier.
Ben Bernard Rogaudy, il allait au collège de Joliette, ouais. Je crois. Parce que le nom me dit quelque chose. C'est celui-là,
probablement. Oui, il n'y en a pas beaucoup, des Rogaudy.
Non, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, quand on a parlé de vous...
S'en est suivi une passionnante discussion autour des études de mon grand-père qui aurait peut-être croisé celle de M. Olivier. Mais je vous épargne les détails. Dès le premier contact, j'ai compris que M. Olivier était quelqu'un de curieux, ouvert, appliqué, qui fait les choses au meilleur de ses connaissances, qui sont très vastes et variées. Parler de musique avec lui coule de source. C'est un plaisir qui a fait déborder l'entrevue un bon bout de temps. Pour la chanson, j'avais un personnage en or, un neurochirurgien, jazzman. J'ai tout de suite pensé à allier ses deux passions, celle où il opère littéralement dans la tête des patients et celle où son instrument, la trompette, agit sur les gens, sur leurs sens, leurs émotions. En plus, j'avais l'occasion d'aller dans un territoire aux couleurs jazz, avec des accords que j'avais jamais explorés. Chères auditrices, chers auditeurs, voici ma chanson inspirée d'André Olivier, résident de Saint-Alphonse-Rodriguez, « Dans la tête ».
j'attends quand le traitement s'arrête. Vous n'êtes plus comme avant. Le temps à la fenêtre est bleu si souvent. Les notes en moi s'entêtent et se lève le vent.
de bois et d'eau, est écrit et réalisé par Guillaume Regaudy. Musique, chansons et ambiance sonore par Guillaume Regaudy. Merci à André Olivier et mes collaborateurs musicaux, Rémi Cormier, Philippe Lucier-Baillargeon et Philippe Coulombe. Ces projets sont réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodrigues dans le cadre de l'entente de développement culturel Programme d'aide aux initiatives de partenariat. À bientôt!